RMC, Ligue de BKT, le débrief.
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans Ligue 2 BKT le débrief, c'est le podcast d'RMC dédié à ce magnifique championnat qui est la Ligue 2. Épisode hors série cette semaine, une spéciale Rodez. On va parler du beau début de saison du RAF, l'histoire de ce club, de ses objectifs aussi à court et moyen terme. On est avec des acteurs majeurs, à commencer par le président Pierre-Olivier Murat. Bonjour président.
Bonjour.
On est également avec le coach Didier Santini, bonjour coach.
Bonjour à tous.
Deux joueurs vont également nous rejoindre. L'un est déjà là, connecté, Lorenzo Rajo. Salut Lorenzo.
Salut.
Et on a la chance, enfin il a la chance, surtout un supporter ruthénois, va participer au podcast avec nous. Il s'agit de Christophe. Salut Christophe.
Salut.
Et ben voilà, tout le monde est là, on peut attaquer cette spéciale Rodez. C'est parti pour Ligue 2 BKT, le débrief. Messieurs, je vais rappeler le classement de la Ligue 2 après 14 journées. Laval est en tête devant Angers et Auxerre. Rodez est 8e avec 20 points, à 4 points du top 5, avec 7 points d'avance sur la zone rouge. Parole au président pour commencer, Pierre-Olivier Murat, avant de rentrer dans le détail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que c'est que l'identité ruthénoise ? C'est quoi être, ça représente quoi d'être un joueur du RAF ?
Mais déjà notre recrutement est basé sur l'identité avant d'être sur la qualité des joueurs, parce qu'ici on est dans un pays relativement rural et tout, donc on a besoin d'avoir des garçons et des têtes bien pleines, un esprit combatif et des joueurs qui lâchent rien devant notre public. Voilà.
Voilà, c'est résumé en quelques mots, c'est simple, efficace. Didier, c'est ce que vous avez ressenti quand vous êtes arrivé au club ? C'est ce club familial avec une forte identité ?
Oui, exactement. C'est un club qui a une énorme identité, où il y a du président à tous les bénévoles. Les gens sont assez bienveillants, très sympathiques, sont toujours là pour vous aider et donnent une belle valeur et apportent à tous mes joueurs chaque fois, ben, même quand il y avait des moments difficiles, du réconfort et jamais critiquer, et toujours être positif, positif et positif.
Lorenzo, et là aussi Lorenzo Rajo, un joueur cadre de cette équipe de Rodez. Lorenzo formé à Clermont, qui est vite arrivé ensuite à Rodez. Lorenzo, c'est le sentiment que tu as aussi, ça fait plusieurs saisons que tu es à Rodez et tu retrouves ce club, cet esprit familial dans l'équipe.
Oui, c'est un club très familial où tout le monde se côtoie au quotidien, avec un public très proche des joueurs qui veut avant tout qu'on donne tout sur le terrain avant même qu'on soit bon. Et donc voilà, c'est les valeurs qui définissent la région, la ville. Donc on essaie de retransmettre ça au quotidien au sein du groupe.
Mais pour l'instant ça marche, hein. Je le disais, Rodez 8e de Ligue 2 après 14 journées disputées. Est-ce que les supporters ont le même avis ? Christophe, toi tu es donc un supporter ruthénois, bah, tu as un lien particulier avec le RAF parce que je crois que tes deux filles font partie du club de Rodez, donc tu es vraiment très attaché au Rodez Aveyron Foot. Tu ressens ce que disent le président, l'entraîneur et Lorenzo, le joueur ? C'est cet état d'esprit qui ressort ?
Mais c'est vrai qu'on a de suite le sentiment de faire partie de la famille quand on est supporter du RAF. Une famille où les supporters se sentent pleinement intégrés rapidement et du coup, ben, ça génère une empathie avec le club. Et cette année, en plus, on a du spectacle, du beau jeu et des exploits parce que on se considère un peu en petit poussé de la division et des clubs professionnels. Donc c'est vraiment des belles années pour les supporters du RAF.
Et oui, je rappelle, un 5e saison en Ligue 2, donc pour le Rodez Aveyron Foot. Un magnifique parcours en Coupe de France l'an dernier, lui avec un quart de finale et cette défaite face à Toulouse, futur vainqueur. Bon, une lourde défaite 6-1, mais ça n'enlève rien au beau parcours. Président, est-ce qu'on peut évacuer tout de suite le sujet polémique de la saison dernière, donc ce maintien acquis à la dernière journée, le match arrêté à Bordeaux ? J'ai pas envie de refaire le débat ici et d'en reparler, de ressasser tous ces souvenirs, mais tout simplement, est-ce que cette histoire, ça y est derrière Rodez ? Est-ce que vous avancez ? Est-ce que vous n'en parlez plus ? En plus, vous êtes déjà déplacé à Bordeaux, donc ça y est, le sujet est clos pour vous ?
Oui, pour moi, il est clos depuis longtemps. Et d'ailleurs, je pense que c'est grâce à ça qu'on fait un très bon début de saison. Parce que après cette histoire, tout le monde était déjà soudé, mais on est devenu encore plus soudé. On a vite basculé sur la saison 23-24. Et je pense que c'est parce qu'on a basculé très rapidement, on n'est pas rentré dans les polémiques et qu'on s'est concentré sur la saison suivante, qu'on fait un début de saison qui est très très bon.
C'était un enjeu pour vous, Didier, vous qui êtes coach, de construire un peu sur la saison passée, donc ce maintien acquis à la dernière journée, essayer d'éviter ce scénario, donc repartir sur une grosse préparation. C'est arrivé à Laval, à qui on a consacré un hors-série il y a un mois, qui a fait un petit peu la même chose avec un recrutement très précoce et ensuite eh bien, un très bon début de saison. Quand on acquiert le maintien comme ça à la dernière journée, est-ce que ça permet de repartir sur de bonnes bases et d'être encore plus motivé pour le début de la saison d'après ?
Oui, ça permet d'être plus motivé, mais l'important de fin de saison, c'était après de notre maintien, c'était de garder une grosse ossature, ce que j'avais demandé au président dans ce qui a été fait, de garder une grosse ossature de 12-14 joueurs qui avaient vraiment une mentalité où je me retrouve vraiment avec eux. Et puis après, de donner des profils et de trouver par rapport au projet de jeu qu'on avait mis en place avec Emeric et ce qu'on voulait faire. Et de trouver voilà, ces joueurs à forte mentalité, avec de l'intensité, de la vitesse, avec du cœur, qui allaient vite s'intégrer dans la ville. Donc ça, c'était important et ça a été très bien fait.
Emeric, c'est Emeric Darbelay, hein, votre fidèle adjoint avec qui vous construisez cet effectif et avec qui vous mettez en place toutes vos séances et toutes les équipes tous les week-ends. Lorenzo, tu as été contacté, toi, par les plus grands clubs de Ligue 1, mais tu as voulu rester à Rodez, hein, c'est ce que tu me disais, toi, du coup.
Ouais, voilà, c'est ça.
Non, mais c'est vrai, toi, tu avais fait une grosse saison, tu avais fait 33 matchs aussi. Tu voulais t'inscrire dans la durée comme ça à Rodez, tu avais confiance dans le projet qui est mis en place. Justement, tu savais que ce serait plus facile cette saison que la saison dernière ?
Oui, parce que, comme l'a dit le coach, on a gardé la même ossature et on a des automatismes maintenant sur le terrain, donc tout est plus simple. Voilà, les recrues se sont très bien intégrées et nous apportent un plus qui nous manquait sur les saisons précédentes. Et voilà, on a de bonnes idées, on essaye de les transmettre sur le terrain et pour l'instant ça se passe plutôt bien.
L'histoire de Rodez, président, est particulière puisque vous avez fait une ascension fulgurante, vous avez retrouvé donc la Ligue 2 il y a 5 ans désormais. Vous vous étiez appuyé sur un noyau dur de joueurs qui était là même dès le début de l'épopée, sur le coach Laurent Perlade. Et puis les années passent, donc il faut opérer une transition. Perlade est parti, certains cadres aussi de l'équipe ont quitté le club. Est-ce que c'est un moment délicat pour un président comme ça de tourner une page qui a été si importante pour le club et de parvenir à construire autre chose avec des nouveaux acteurs ?
Alors ça s'est fait petit à petit, hein, puisqu'on est passé du CFA2 à la Ligue 2. Très rapidement, avec un noyau de joueurs importants qui a tout connu. Et chaque année, y avait 2-3 joueurs qui voulaient partir ou qu'on ne voulait pas conserver. Il n'y a pas eu une grosse cassure, en fait. Ça s'est fait en douceur. Hein.
Il y a encore des joueurs, d'ailleurs, qui étaient là au début de l'aventure hein, dans l'effectif. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui sont là encore.
Oui, notre gardien de but, qui est toujours là, Joris Chougrani. Ils sont garants de l'histoire du club et de nos valeurs. Voilà. Et les nouveaux qui arrivent rentrent très rapidement dans ce moule parce que, comme je le disais au début de l'émission, nous on fait très très attention aux hommes quoi, avant de s'intéresser aux sportifs.
Comment ça se passe d'ailleurs, coach Didier Santini, le processus de recrutement ? C'est vous qui ciblez des joueurs, ensuite vous les recevez, il y a un entretien avec le président, la mentalité est plus importante que tout ?
Déjà, le président me connaît bien et je le connais très bien aussi maintenant. Et il sait que la mentalité pour lui est hyper importante. Pour moi, c'est primordial. Ensuite, non, je vais cibler des profils, comment je veux jouer, quelle est vitesse, intensité, si c'est un joueur gaucher, droitier, grand, petit. Je vais cibler les profils et puis après, le président, Greg et Gus vont travailler. Et chaque fois avec Emeric, ils vont nous appeler, ils vont nous donner des profils. On va regarder, on va voir si ça nous convient. Et puis après, ils vont donner sur 2, 3, 4 profils par rapport à un poste. Et après, on en discute. Voilà, c'est très collégial. Je trouve que c'est très intéressant parce que ça a toujours été... ils ont toujours donné des bons profils. Et même des fois, quand on ne fait pas des choix, c'est peut-être des choix aussi par rapport à l'humain. Il y a un moment, des fois, moi, je pense qu'un joueur humainement extraordinaire peut progresser fantastiquement, peut aller très, très, très loin.
Ça fait partie des arguments quand vous essayez de convaincre un joueur de signer à Rodez. Quels sont les leviers alors pour vous pour les faire signer quand il y a de la concurrence sur certains dossiers ? Comment on arrive à convaincre un Lorenzo Rajo qui a connu Clermont, d'ailleurs qui a fait partie de l'accession, je crois, Lorenzo, tu avais joué un petit peu lorsque Clermont est monté en Ligue 1. Comment on arrive à le convaincre, par exemple, de rester et de s'inscrire dans la durée à Rodez, président ?
Lorenzo, on est dans le cas typique d'un joueur. Dès qu'il est arrivé, on a l'impression qu'il était à Véronée. Il a des belles valeurs, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Après, on est dans une région où, parce qu'il n'y a pas que le foot dans la vie, où il fait très bon vivre. On est tranquille, on a des bonnes installations, notre centre d'entraînement est complètement en dehors de la ville. Il y a de quoi très bien travailler. Pour les gens qui ont femmes et enfants, je dirais que c'est extraordinaire pour eux d'élever leurs gamins ici, parce qu'on a une qualité de vie qui est top. Alors, on n'a pas les plus grosses finances de Ligue 2, même, je dirais, on est plutôt en bas. Et tous ces arguments, avec le nouveau stade qui est là, des fois, ça fait tilt. Et pour que ça fasse tilt, très souvent, on fait venir les joueurs sur place, plutôt que de faire des visios, parler au téléphone. Et dès qu'ils viennent ici, qu'ils ressentent comment le club est organisé, qu'on leur montre un peu la vie, ça change un peu les choses.
Lorenzo, qu'est-ce qui t'a convaincu à ce moment-là, alors ?
Bah, moi, c'était le projet. J'avais déjà joué contre Rodez, je savais comment fonctionnait le club et j'ai tout de suite été intéressé. C'était un projet sur le long terme et j'aime bien construire des choses, donc je savais où je mettais les pieds.
Voilà, au moins tu savais ce qui t'attendait, que tu allais pouvoir t'épanouir en tant que joueur à Rodez, voilà, que tu pouvais vraiment t'installer dans cette équipe et bah aussi progresser, parce que tu es un jeune joueur encore, tu as 26 ans, et puis d'ailleurs on le voit cette saison parce que tu es un des cadres de cette équipe. Justement les gars, si on parle du début de saison, coach, est-ce que au niveau du tableau de marche, est-ce que vous êtes un peu en avance sur vos prédictions ? Est-ce que vous raisonnez comme ça ? Est-ce que vous êtes agréablement surpris par le bilan après 14 journées ?
Non, je ne suis pas surpris, je suis même déçu de ne pas avoir 3-4 points de plus. Je pense à des matchs comme Valenciennes ou Bastia. Voilà. Après, non, je ne suis pas surpris parce qu'en gardant cette ossature la saison dernière et en amenant des joueurs de qualité, je savais que ce groupe l'année dernière, ce qu'il avait vécu toute la deuxième partie de saison, en gagnant 6 matchs d'affilée à un moment pour remonter au tableau alors qu'on était dernier, avaient beaucoup de valeur et il fallait qu'ils en prennent conscience, qu'ils peuvent mettre beaucoup de qualité dans leur jeu, qu'ils ont des valeurs humaines extraordinaires, comme on l'a vu ce week-end en Coupe de France, où vraiment, rarement dans ma carrière, j'avais eu des mecs autant professionnels de jouer contre une R1 et d'être aussi concentrés, rigoureux dans tout ce qu'ils allaient faire.
Victoire 3-0.
Ouais, donc après, c'était et de respecter énormément l'adversaire, et l'adversaire nous l'a montré. Et après, c'était de... Voilà, c'était tous les nouveaux joueurs. Non, je savais qu'on pouvait faire une grande saison, mais il faut qu'ils en prennent tous conscience. Comme tout à l'heure, vous l'avez dit, que Rodez, pour moi, c'est plus un petit club.
Ah ouais.
C'est un club qui a des valeurs, c'est un club qui a une ossature, c'est un club qui a un passé maintenant. Après, c'est sûr qu'on n'a pas les plus grosses finances, mais je me souviens pas que quand j'étais à Bastia ou à Lille, je suis monté avec les plus grosses finances, où j'ai réussi des choses. C'est pas les finances qui font marcher, c'est les hommes sur le terrain et tous les gens qui travaillent autour de ce club.
Il y a eu des matchs énormes à Paul Lignon depuis le début de saison. Je pense à cette victoire contre Saint-Etienne, ce carton contre Angers, ou alors ce 5-3 face à Caen. Christophe, toi qui es supporter, t'as vibré pas mal de fois si t'es allé au stade à chaque fois, parce qu'au moins il y a du spectacle cette saison à Rodez.
Alors j'y étais, bien sûr, et avec tout le plaisir qu'on peut avoir. On constate aussi que le parcours, il a été favorable à domicile, parce que je crois qu'on est 4-5e quand on regarde les classements à domicile. Donc il y a une vraie attention de cet effectif quand elle joue dans son antre. Et on sent cette proximité avec l'équipe. On les sent capables de renverser les situations. Pensons à Caen et les valeurs ruténoises, les valeurs du combat, d'aller affronter l'événement, comme ce premier match contre Saint-Etienne. C'est vrai que c'est une atmosphère particulière, ce stade, parce qu'il y a cette proximité avec les joueurs. Et j'invite vraiment les gens à venir partager ce moment de football.
C'est vrai que c'est un stade particulier, président, parce que pour l'instant, la capacité d'accueil est limitée. On est à moins de 4000 spectateurs. C'est un enjeu à moyen et long terme d'augmenter la capacité, de construire une vraie enceinte pour pouvoir pérenniser le club dans les plus hautes divisions françaises ?
La deuxième tranche est en cours, avance bien grâce à notre maire qui a compris l'enjeu d'un stade pour rester, pérenniser et construire encore plus en Ligue 2. On aura, notre U qui sera livré en fin de saison et complètement fermé au mois de décembre l'année prochaine. Et c'est vrai que c'est un stade qui est assez atypique parce qu'on est, on est très très proche du terrain, quelle que soit la tribune où on est. Ça sera un petit stade par rapport à d'autres enceintes de Ligue 2, mais qui est toujours plein. Et avec une grande proximité du public avec les joueurs, et c'est un stade qui nous ressemble. Voilà.
Lorenzo, il y a un vrai effet à domicile quand on joue à Rodez. C'est vrai que le bilan est bon, vous êtes quatrième pour l'instant de Ligue 2 à domicile, 4 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Tu le ressens en tant que joueur, la ferveur ruthénoise comme ça ?
Oui, c'est vrai qu'on ne joue pas devant 30 000 personnes, mais on a l'impression qu'il y a beaucoup plus que 3 000 personnes quand on joue à domicile. Il y a une réelle proximité, ils nous emmènent, on essaye de les emmener et ils répondent tout de suite. Et dès qu'il y a une petite action, on sent le public avec nous, quoi, donc c'est bien. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'on arrive à faire de bonnes prestations à domicile, on prend des points et c'est ce qui va nous permettre de faire un bon championnat sur la durée. Ouais.
Qu'est-ce qu'on se dit dans ces cas-là, coach Santini ? On se dit qu'il faut appuyer sur ce bon bilan à domicile, en faire vraiment une force énorme, ou est-ce qu'il faut aussi essayer d'être un peu meilleur à l'extérieur, entre guillemets, pour continuer de perfaire ?
Non, de toute manière, il fallait avoir cette force à domicile, c'est une obligation. Je pense que les joueurs en ont pris conscience. Je pense que les joueurs ont pris conscience la saison dernière dans des moments très difficiles où ils n'ont jamais été sifflés par le public. Ils ont toujours été encouragés. Je me souviens, cet avant-dernier match contre Pau, où on fait n'importe quoi en première mi-temps, on perd 3-1, je crois, à la mi-temps. Il n'y a pas un sifflet, il n'y a que des encouragements. Donc, c'est toujours ce que je leur ai dit, de se rappeler de ça, que ces gens seront toujours derrière eux tant qu'ils verront qu'ils se battent jusqu'au bout. Et après, c'est sûr que c'est d'aller chercher des résultats à l'extérieur. On a fait des bons résultats, mais on n'a pas encore performé. On est allé gagner à Dunkerque, on a fait les matchs à Bordeaux, à Pau, mais on sait qu'on peut faire mieux, on doit faire mieux. Mais après, si on arrive à rester très consistant à la maison, je pense que depuis le début de la saison, voilà, on ne méritait pas de perdre un match et il faut continuer à appuyer là-dessus.
Après, il y a eu des déplacements compliqués à Ajaccio, à Laval, qui est leader toujours du championnat. Vous êtes allé à Auxerre, qui n'est jamais évident à gérer. À Bordeaux, vous l'avez dit, donc il y a ça aussi qui explique le parcours différent à l'extérieur, coach.
Oui, mais à l'extérieur, on va faire match nul à Ajaccio. Ouais. Je pense qu'à Auxerre, la défaite était logique, mais on fait un super match et on fait un bon match. On ne fait pas un super match, on fait un bon match, mais Auxerre a fait vraiment ce jour-là un très, très, très gros match. Je vous dirais que le seul bémol, ça a été le match à Quevilly, où Quevilly a fait son match, mais nous, on n'a pas été à la hauteur. Alors, c'est vrai que c'était une journée particulière, mais ce n'est pas une excuse, mais on n'a pas été à la hauteur ce jour-là par rapport à ce qu'on est capable de faire. Mais même à Laval, on perd 1-0 sur un coup de pied arrêté, mais on ne méritait pas. Mais après, le football, si vous ne les mettez pas au fond, vous faites une erreur stupide, bah, vous perdez, ce qui est logique. Hein. Mais elle est autant consistante à l'extérieur. Après, c'est sûr qu'à la maison, cette ambiance, ce petit stade qui va être extraordinaire fini, avec le public, les joueurs, ils le sentent, quoi. À un moment, ils sont portés, quoi.
Avant de libérer Lorenzo, je voudrais juste parler avec toi de ce qui s'est passé le week-end dernier. Donc tu mets un doublé à Liffré en Coupe de France. La Coupe, c'est très important pour vous dans le groupe, Lorenzo. Je l'ai dit l'an passé, énorme parcours, hein, quart de finale tout de même. Ça vous a marqué en tant que joueur ? Vous voulez rééditer cette performance et faire un bon parcours en Coupe de France ?
Oui, bien sûr, ça nous a marqué parce que déjà moi c'était ma première vraiment aventure en Coupe de France, ouais. D'aller jusqu'en quart de finale. Mmh. Après l'année dernière, on était en difficulté au classement à cette période-là, et c'est ce qui nous a permis au quotidien de toujours avoir le sourire parce qu'il y avait la Coupe de France, des matchs comme ça, donc ça nous a tenu pour après, une fois que cette aventure était terminée, aller chercher le maintien. Et cette année, oui, on a un bon groupe avec de la qualité, donc c'est important pour nous de faire un beau parcours pour maintenir tout le monde concerné.
Merci Lorenzo. Dernière question, est-ce que tu assumes cette ressemblance capillaire avec Adrien Rabiot ? Oui, ça te va si on t'appelle le Rabiot ruthénois ?
Ouais, si vous voulez.
Merci Lorenzo d'avoir été avec nous. Bonne journée à toi et bonne suite de saison à Rodez. On accueille un autre cadre de cette équipe ruthénoise, c'est Bradley Danger qui est avec nous. Salut Bradley.
Salut, bonjour.
Ah bah là, je dis cadre, Didier Santini, parce que c'est celui qui ne loupe jamais une minute, hein, quasiment. C'est dingue. En Ligue 2, il joue tous les matchs en entier, il sort jamais, Bradley.
Bah ouais, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui bosse bien, qui va bientôt être papa.
Eh oui,
ça va aller vite.
Voilà.
Et puis et qui aujourd'hui est notre capitaine parce qu'il le mérite.
Bradley, oui, ça va tomber dans les jours qui viennent. Hein. A priori, la paternité, c'est pour bientôt.
Ouais, dans les jours. Voilà. J'aimerais bien dans pas trop longtemps parce que c'est vrai que ça commence à faire du temps, mais ouais, ça va se passer dans. Bah, le terme, c'est vendredi, donc ça devrait arriver très prochainement.
Alors un conseil, profite de tes nuits, mon vieux, parce que là après, ça sera terminé.
Ouais, ça va bien se passer.
Ou alors, coach, faut prévoir des mises au vert à ce moment-là pour qu'il soit tranquille.
Ouais. Non, il est pro, ils savent faire.
Bradley, on est avec toi aussi, tu es le capitaine parce qu'on raconte donc l'histoire de Rodez. On n'a pas encore parlé d'objectifs cette saison, président. Quels ont été les objectifs fixés donc au staff et aux joueurs? Vous visez quoi avant tout, le maintien? Parce que là, le début de saison se passe bien, mais vous gardez en tête cette idée de pérenniser le club en Ligue 2, d'autant plus qu'il y a encore 4 descentes cette saison?
Oui, tout à fait. Après, là, on est entre guillemets un petit club, mais on n'est plus un petit club. Ça fait 5 saisons qu'on est en Ligue 2. L'année dernière, on finit 14e. Donc, il faut faire mieux. Aujourd'hui, mine de rien, on est la deuxième meilleure attaque de Ligue 2 ex aequo.
Ouais.
Ce qu'on montre depuis le début de la saison, il faut, pour moi, il faut avoir un peu plus d'ambition. Le top, c'est de prendre les points le plus rapidement possible. Pour l'instant, on est bien parti avec 20 points actuellement. Mais il faut être ambitieux, voilà.
Ouais.
Il faut être ambitieux et pas s'enflammer, mais il faut être ambitieux parce que cette équipe, mine de rien, on a gagné, comme vous le disiez, on a gagné Caen, on a gagné Saint-Etienne, on est allé faire match nul à Bordeaux, à Ajaccio, donc ça veut dire qu'il y a de la qualité. Il faut que les garçons en aient vraiment conscience et qu'on se libère un peu plus à l'extérieur, comme on le fait à domicile. Et si on fait ça, qu'on reste sérieux, qu'on ne se prend pas pour d'autres, je pense qu'on peut avoir une bonne surprise.
C'est vrai qu'il y a des grosses écuries dans ce championnat de Ligue 2, mais il y a le retour des barrages d'accession cette saison. C'est un objectif caché, vous y pensez un peu, c'est trop tôt pour le dire, coach, ou vous en êtes où? Vous êtes dans quel état d'esprit, vous aussi? Vous voulez d'abord valider le maintien, après voir la suite, ou... Vous gardez un œil.
Oui, c'est trop tôt. Moi, je suis quelqu'un, vous savez, je vis dans la semaine.
Ouais.
Quand Emeric commence à travailler sur les équipes adverses, il m'en parle jamais. Il m'en parlera qu'après le match ou le dimanche, il m'en parle jamais avant. Donc, je ne peux pas parler de ce qui va se passer dans 2 mois, 3 mois. Maintenant, je sais que cette équipe a de la qualité, a du talent. Et que s'ils en prennent conscience, ils peuvent aller être dans les 8, aller chercher, parce qu'ils sont très durs à jouer, ils ont des principes, ils ont trouvé une solidarité entre eux. Peu d'équipes dans ce championnat de Ligue 2 qui est compliqué, si on prend les pourcentages, reviennent de 2-0 à 2-2, reviennent de 3-2 à 5-3, sont capables de renverser des montagnes au moment où tout le monde ne s'y attend pas. Et on l'a montré déjà la saison dernière, quand en Monaco, en Coupe de France, on perdait 2-0.
Oui.
Et vous avez parlé de Toulouse tout à l'heure, c'est peut-être celle qui nous a respecté le plus, parce que Philippe l'avait très bien dit en interview, cette équipe, il ne faut pas lui donner une seule chance de revenir en vie, quoi. Donc à 2-0, ils ont appuyé, et puis nous, on était... Voilà, quand tu pars 2-0, 3-0 contre Toulouse, et que 3 jours après, tu as le match le plus important de ta saison, le premier match le plus important de ta saison sur les 11 derniers, c'était Niort. Bah, tout le monde est passé à switcher à ce moment-là, ce qui est dommage, mais c'était comme ça. Donc elle a de la qualité. Après, c'est comme je leur ai dit, c'est vous qui allez écrire votre histoire, et si vous êtes ambitieux, bah, je pense que vous pouvez rêver loin.
Bradley, on veut pas de langue de bois. Hein. Est-ce que vous regardez un peu vers le haut aussi quand vous regardez le classement dans le vestiaire?
Non, honnêtement, non, à part Tahirik qui dit il y a 10 journées, on va être dans les 5 premiers. Non, mais faut être lucide en même temps. On a envie d'être ambitieux, ça c'est sûr et certain. Tout joueur de foot, tout compétiteur veut être ambitieux. Mais on est aussi un groupe jeune qui apprend de jour en jour, de match en match. Donc il faut qu'on soit conscient qu'on a quelque chose de bien à faire, mais pas se prendre pour d'autres, comme le Prez a dit. Donc on regarde devant nous, autour de nous, mais on avance match après match. On verra où on sera déjà à mi-saison.
Ouais. Alors justement, on va se projeter un peu, et puis j'aimerais avoir votre regard sur le championnat de cette saison, parce que nous, on le trouve extrêmement relevé, avec de grosses écuries qui sont arrivées bien renforcées. Juste un mot sur la passe que vous traversez. Là, entre les deux trêves, il y a eu 3 matchs nuls, 1 défaite. Coach, est-ce que c'est lié à des faits de match? Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'il y a eu une fatigue physique? Est-ce que la trêve arrivait au bon moment, là, du coup? Même si vous avez joué la Coupe de France le week-end dernier.
Non, il n'y a pas eu de fatigue. Il y a eu des circonstances d'aller jouer à Bordeaux, de faire 2-2, de revenir là aussi de 2-0 à 2-2 et d'avoir la balle de 3-2. Et avec de la qualité. Bastia, on fait un partout, mais voilà, on a pris un but d'entrée, on domine beaucoup. Je vous dirais que le match de Quevilly n'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait, même si Quevilly, eux, a fait son match. Voilà, après, il y a eu ce côté aussi où on a beaucoup parlé, parce qu'on prenait des buts, mais comme je leur dis, moi, je préfère gagner 5-3 que faire 0-0. Quoi.
Mais ça se voit donc, d'ailleurs dans les chiffres. Hein. Vous avez mis 23 buts, vous en avez pris 21, mais au moins, il y a du spectacle avec Rodez.
Ouais. Ben, à un moment, c'est mettre de la folie. Puis après, c'est sûr que moi, en tant que défenseur, j'ai pas envie non plus, et je connais Brad aussi, de prendre des buts. Mais si on leur dit à chaque match qu'ils vont gagner 5-3, 3-2, 4-3, ils iront. Mais parce qu'on en met, alors à un moment, ben, peut-être que le dernier match, on s'est mis un petit peu frein à main pour faire un clean sheet, parce que ça fait du bien aussi.
Contre Guingamp.
On en a parlé, tout le monde nous en a parlé, contre Guingamp, tout le monde nous en a parlé. Donc ça fait du bien, mais je pense que cette équipe, elle a ce brin de folie, quoi. C'est qu'on le retrouve même des fois à l'entraînement, où c'est, entre guillemets, pas moyen, mais ils regardent, ils se jaugent, et puis d'un seul coup, ça explose et ça part dans tous les sens, quoi. Donc c'était aussi un peu mon football quand j'étais à Bastia et que j'aime et que j'aime que les mecs ont peur de rien, ils calculent rien et voilà. Après, c'est comme l'a dit Brad tout à l'heure, c'est une équipe, je crois, la plus jeune du championnat, ou l'avant, on est deuxième, je crois, plus jeune du championnat. Donc des fois il manque cette petite expérience, ou des fois à un certain moment du match il y a quelqu'un qui serait capable de calmer, mais il y a des joueurs, voilà, comme Brad, comme Louch et d'autres qui commencent à parler, à prendre plus de place dans le vestiaire, et ça c'est très important, et surtout de dire les vraies choses et les bonnes choses.
C'est pas le président qui a dit on ferme les vannes, président, c'est pas vous qui avez dit ça y est, stop là.
Pas du tout, je suis engueulé.
Pas du tout. Moi, le score que je déteste, c'est 0-0.
Ah, voilà, vous n'aimez pas vous ennuyer.
C'est pas ma consigne.
Voilà, exactement. Non. Avant de parler de votre regard sur le championnat, la parole à notre supporter Christophe, parce que je sais pas si tu fais les déplacements, je pense pas, parce qu'il y a des déplacements plus compliqués en Ligue 2, mais toi, tu te régales avec cette philosophie cette année, comme ça, les matchs ouverts, début dans tous les sens, ça te plaît ?
Oui, et puis la sensation qu'on peut renverser tout à tout moment. Donc ça nous permet de rester en haleine jusqu'aux derniers instants, quel que soit le score à la mi-temps. Et puis aussi, pour abonder, il y a deux choses qui viennent avec les résultats. Il y a l'exigence des supporters, l'exigence de l'environnement, et puis j'imagine aussi le regard de l'adversaire. Et moi, j'étais aussi sur Guingamp, qui était un match très tactique, assez fermé. J'ai aussi l'impression qu'on avait Guingamp qui jouait avec le frein à main, et pas seulement Rodez. Et par conséquent, ben, on est certainement plus respecté, et on a des équipes en face qui sont plus vigilantes. Donc, ben, il y a des chantiers que j'imagine sont menés pour pouvoir vraiment diversifier, renouveler la variété du jeu. Et c'est quand même un petit peu sympathique d'avoir l'orgueil du supporter ruthénois d'être reconnu et craint aussi par des adversaires tels que Guingamp.
C'est une bonne remarque, ça, d'ailleurs, Bradley. Est-ce que le regard des adversaires a changé avec votre début de saison ? Tu le ressens ?
Ouais, exactement. Je pense que c'est bien dit, parce que surtout sur le dernier match, mais je pense que même les matchs d'avant, je pense qu'on est, beaucoup plus regardé, on est beaucoup plus étudié, entre guillemets, quand on voit Guingamp qui vient chez nous, qui est eux aussi une grosse attaque quand ils viennent, et même encore maintenant. Mais en général, ils étaient sur une grosse série, je crois. Ils étaient sur 5 ou 6 matchs sans défaite.
Ils ont mis 20 buts. Hein. Vous en avez mis 23, mais ils en ont mis 20.
Ça. Donc on sentait qu'ils étaient aussi venus pour faire attention, pas forcément se livrer, essayer de nous contrer nous contrer en général. Donc c'est sûr que c'est plaisant aussi de sentir qu'on est craint, qu'on est regardé en tout cas, et qu'on s'adapte un peu plus à nous. Après, c'est aussi à nous de savoir ça, et de se dire qu'il va falloir en mettre plus, parce que les équipes vont nous attendre.
Comment vous voyez tous le championnat de cette saison ? Est-ce que vous le trouvez plus dense, plus relevé ? La surprise, c'est que Laval est leader, mais derrière, on a les grosses écuries. Hein. Angers est là, Auxerre aussi, Saint-Étienne est pas loin. Il y a quand même des grosses équipes. Auxerre et Angers ont su rebondir rapidement après leur descente de Ligue 1 en Ligue 2. Président, comment vous jugez le championnat ? C'est votre cinquième saison, on le rappelle, en Ligue 2.
C'est un championnat qui est très très serré, à l'image de la dernière journée où tout le monde peut gagner contre tout le monde. Les gros, entre guillemets, sont là. Sur la durée, peut-être, ils seront encore. Mais honnêtement, il n'y a pas, pour moi, une équipe qui écrase tout. Voilà, ouais. Comme pouvait le faire il y a 2 ou 3 ans le TFC, mon voisin.
Alors nous, dans le podcast, on débriefe chaque journée donc avec des acteurs majeurs. On a des joueurs charismatiques, des joueurs qui connaissent bien le championnat aussi. On a Romain Thomas de Caen, Gaëtan Vesbeck de Bordeaux, des joueurs qui Jordan Adeoti de Laval. Et ce qu'on nous dit, en fait, coach, c'est que c'est un championnat où on ne peut jamais se relâcher. Parce que Laval l'a découvert à ses dépens, d'ailleurs, parce que Laval était facilement leader. Laval a pris une claque à domicile contre Concarneau, alors que sur le papier, c'était un match plutôt évident. C'est ce que vous ressentez aussi, coach, c'est que chaque match va être une bataille, quoi qu'il arrive.
Oui, chaque match va jouer sur des détails. Je pense que c'est un très gros championnat. C'est peut-être une des plus belles Ligue 2 que la Ligue 2 n'ait jamais connue cette saison, avec ces grosses équipes. Ouais. Donc ça demande une rigueur, une concentration déjà quand tu joues contre eux. Et après, quand tu vas jouer des clubs Montup, Rodez, Quevilly, Laval, de les respecter. Mais on voit Laval, le championnat qu'ils font, c'est très sérieux défensivement, c'est très costaud. Et le travail de Concarneau, de Stéphane Lemignan, qui ne m'étonne pas du tout, parce que j'ai joué quand même pas mal de fois contre lui en national, avec beaucoup de qualité, mais il y a plein d'équipes. Et puis on sait très bien qu'une équipe peut faire une série. Tout le monde peut gagner contre tout le monde, je pense. Après, il y a, comme le dit le presse, il n'y a pas d'équipe qui écrase, mais bon, moi j'ai trouvé Auxerre.
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
J'ai trouvé Auxerre avec une qualité technique, surtout contre nous. Je veux dire, voilà, il y avait ce côté. Tu respectes Rodez là, parce que c'est plus petit, et si tu leur ouvres une petite porte, ils vont aller très très vite vers l'avant. Donc ils ont fait ce jour-là un gros match. Ça s'est joué à pas grand-chose à un moment, mais quand on revient à 2-1, ben juste derrière, ils re-attaquent pour en mettre un troisième, pour pas nous laisser respirer. Mais c'est vrai que ce championnat va être long, compliqué. Il faut pas se relâcher. Il faut pas croire qu'aujourd'hui il y a des gens derrière et qu'ils sont loin. Non, ils sont pas loin. Mais moi, je préfère regarder devant, mais avec beaucoup de respect pour ce qui se passe derrière moi.
Bradley, nous, c'est le sentiment qu'on a. On a l'impression qu'Auxerre est quand même très costaud, très fort offensivement. On l'a dit avec le coach. Ils viennent de battre 5-2 la Saint-Etienne. Ils ont un arsenal offensif. Perrin, Hein, Aye, Onewu notamment. Nous, on est souvent avec Elisha Owusu, qui est un acteur d'ailleurs de ce podcast. Auxerre, ça semble très solide quand même, Bradley. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais...
Ouais, c'est l'équipe qui m'a le plus impressionné, moi, depuis le début. Dans ce qu'ils font, je trouve qu'ils sont, c'est vraiment huilé. Chacun sait où c'est ce qu'il a à faire, c'est ce qu'il faut faire. Ils ont aussi des joueurs qui ont de l'expérience, que ce soit un peu en Ligue 1 ou en Ligue 2. Donc je pense que c'est important quand une équipe veut monter. Mmh. Donc, ouais, pour moi, c'est l'équipe la plus préparée à monter. Après, on voit que. Comme l'a dit le coach et même le presse, tout le monde peut taper tout le monde parce qu'ils ont perdu chez eux contre Dunkerque. Donc c'est, pour moi, c'est une Ligue 2 qui est un peu au niveau d'une très grosse équipe, par exemple, qui peut dominer comme l'a fait, même si ce n'était pas une saison fantastique, mais comme Le Havre l'année dernière, qui a très peu perdu, qui a beaucoup gagné, le TFC avant. Enfin, il y a souvent eu des équipes comme ça. Bah, cette année, je ne sais pas s'il y aura une équipe qui sera aussi dominatrice, mais en tout cas... Ouais, c'est sûr qu'Auxerre, pour moi, c'est l'équipe la plus apte à monter.
C'est vrai, mais ce qui est fou l'an dernier, c'est qu'on a l'impression que Le Havre a dominé ce championnat, et pourtant les Havrais ont attendu la dernière journée pour monter. Ça aussi, c'était dingue. Ils ont dû le valider chez eux lors de la dernière journée. Nous, on y était d'ailleurs, on avait fait une antenne spéciale sur RMC. Un mot également avec le supporter, Christophe, parce que je le disais, tu n'es pas simplement supporter, et ça nous permet de parler de développement du club avant de vous remercier tous. Tes filles jouent au RAF, hein, parce que la section féminine est très importante à Rodez. Et tes filles se régalent, elles jouent en quelle catégorie alors?
Oh ben, une en U13, une en U8, donc c'est tout petit.
Okay.
Et c'est vrai que c'est l'occasion de mettre l'accent sur la tradition féminine au RAF. Là, cette année, c'est Franck Plaine-Cassagne qui s'en occupe. On parlait aussi de stabilité, de famille, des joueurs, à Lionel Mpassi et les autres plus anciens, mais il y a aussi Greg Ursule, Franck Plaine-Cassagne, qui sont des gens qui connaissent bien le club, Guillaume Lorenz aussi. Et ça participe de cette continuité. Et c'est vrai que les jeunes se sentent considérés. Elles étaient encore ramasseuses de balles dimanche dernier. Et ça participe à cette vie locale autour du RAF.
Président, c'est une priorité comme ça du club de développer aussi la section féminine, renforcer ce côté familial, mais être un club inclusif et se concentrer aussi sur la section féminine.
On a un rôle sociétal dans nos régions. Donc ce qui est important, c'est aujourd'hui on est un gros club en nombre de licenciés, et que ce soit les jeunes garçons ou les jeunes filles, on traite tout le monde de la même manière. On a fait plus de 10 ans en cumulé en D1 féminine, donc c'est pas un hasard, et avec beaucoup de joueuses formées au club en plus.
En plus.
On aura les deux filles de Christophe à l'équipe première bientôt.
Et je compte bien.
Et pourquoi pas. Bon, il me reste à vous remercier tous. Qu'est-ce que je vous souhaite là? Je suis un peu embêté. Est-ce que je vous souhaite les barrages? Est-ce que je vous souhaite un bon parcours en Coupe de France? Un maintien acquis facilement? Didier, je vous souhaite quoi alors pour la fin de saison?
Un maintien acquis facilement et après on verra le reste derrière.
Ok. Bradley, je te souhaite quoi à toi alors? Une saison pleine, comme ça, tous les matchs disputés, 90 minutes, et pourquoi pas une belle surprise à la fin?
Ben ouais, c'est ça. Ou alors de gagner la Coupe de France et de finir premier en Ligue 2, un des trois, mais...
La Coupe de France. Ah, voilà.
Non, je rigole, non, mais comme le coach a dit, de faire une vraie bonne saison dans tous les aspects.
Et
si on se maintient assez vite, il y aura peut-être des choses sympas à jouer, mais on va penser à prendre le plus de points possible. Et on verra comment ça se passera ensuite.
Pour faire mieux en coupe, il faut faire demi-finale. Donc oui, quoi qu'il arrive, ce serait un parcours historique. Ça, c'est sûr. Président, vous souhaite quoi?
De continuer ce qu'on fait actuellement, parce que si on continue comme ça, on fera une très belle saison. Et puis après, j'ai envie de casser le record, parce que je crois que ça fait 23 ou 24 fois d'affilée qu'on va jouer à l'extérieur en Coupe de France. Donc c'est d'arriver à faire un match devant notre public en Coupe de France, voilà. Parce que c'est assez unique en Europe.
C'est fou ça, toujours jouer à l'extérieur. Et pourtant ça ne vous a pas empêché d'aller gagner à Monaco, enfin d'aller vous qualifier à Monaco. Donc ouais, c'est vrai que...
Tout à fait, c'est incroyable, je crois que c'est 23 ou 24 matchs d'affilée à l'extérieur. Ouais.
Je me permets juste d'avoir une pensée particulière pour
notre public.
Pour Bradley, hein, on espère que tout va bien se passer et on te souhaite un bon début de paternité, hein, parce que tu verras le bonheur que ça procure.
Merci beaucoup,
Bradley. Merci beaucoup, merci président, merci coach et merci Christophe, supporter ruténois. À bientôt dans le podcast Ligue 2 BKT Le Débrief. Salut à tous, bonne journée.